De temps à autre, il est bon et juste de conduire à la rivière la langue française.
Les incidents avec les chiens se multipliaient. Un autre jour, par exemple, on tomba sur un corps de pachyderme qui reposait là depuis va savoir quand.
Cette autre femme au visage doux, enfantin, aux yeux humides et profonds, au front haut et pur, cette femme vivante, dois-je la laisser dans son monde ?
Au commencement, l'œil visita la moelle et je naquis. Un sexe émergea à l'opposé de l'œil pour regarder le temps.
Île où l'on ne descendra jamais. Je lance mes chaussures par-dessus bord, car je voudrais bien aller jusqu'à vous.
Bonjour, c'est Gulliver. Troisième numéro, le magazine qui vous parle du monde tel que nous le racontent les romans, les essais, les récits, les carnets de voyage ou les reportages. Alors aujourd'hui, nous avons un invité qui est libraire de son état et qui, avec lui, nous allons aborder, évoquer la personnalité d'un écrivain voyageur à la fois célèbre et pas très célèbre, mais on va y revenir. Il s'agit de Nicolas Bouvier. Et puis, en fin de partie, on évoquera la crise de la librairie et notamment la dernière mesure qui vient d'être prise par le Sénat qui consiste à supprimer les frais de port pour la vente par correspondance. Mais on y reviendra un peu plus en détail. Ce sera notre gros plan. Donc, le grand angle sera consacré à une très belle revue qui s'appelle Long Cours et on entendra les premiers protagonistes de cette revue. Et puis, nous terminerons, comme à l'habitude, notre émission par une revue de presse.
Gros plan.
Bonjour Alain Londer.
Bonjour.
Alors, je disais que vous étiez libraire de votre état. Vous faites partie de ce fameux réseau appelé Libraires indépendants qui se compte par 3000 à peu près sur la France entière. Alors, on y reviendra tout à l'heure sur la situation de la librairie indépendante. Mais tout d'abord, on va parler d'un auteur que vous affectionnez tout particulièrement. Il s'agit de Nicolas Bouvier, malheureusement disparu, dont vous aviez imaginé, lors de la création de votre librairie, en faire votre parrain.
Alors oui, en effet, mais surtout, on n'aurait jamais créé cette librairie si nous n'avions pas découvert nous-mêmes Nicolas Bouvier et ses premiers écrits. Et donc, en effet, en 1995, nous avons créé la librairie, donc 20 ans cette année, à la fin de l'année.
Ah ben, bon anniversaire.
Mais oui. Et en 96, Nicolas Bouvier nous a quittés, donc nous avions demandé à ce qu'il puisse venir comme parrain de cette librairie, une librairie de voyage, de littérature. Et là, il était déjà très très souffrant et il n'a pas pu venir.
Alors donc, pour ne pas la citer, il s'agit de la librairie des 5 continents, comme son nom l'indique. Nicolas Bouvier, c'est un auteur, je disais, à la fois célèbre et pas connu, d'une certaine façon. C'est quelqu'un qui a été, en quelque sorte, qui a eu deux temps dans son existence. Un temps où il a écrit, où il a voyagé, et puis un temps où il a été révélé au public. Et on peut dire que c'est un peu Étonnant Voyageur, le festival de Saint-Malo, qui l'a en partie révélé.
Oui, parce qu'en fait, son voyage le plus célèbre, donc c'est qui a donné un certain nombre d'ouvrages, dont L'Usage du Monde, c'est 53. Le livre, lui, est paru en 63 en Suisse, puisqu'il faut quand même rappeler que Nicolas Bouvier est un écrivain suisse. Et c'est un échec, puisqu'en fait, à l'époque, Gallimard avait refusé le manuscrit. Ce qui est assez amusant lorsqu'on voit que maintenant l'œuvre complète est chez Gallimard. Beaucoup d'éditeurs avaient refusé et en fait c'est à compte d'auteur chez Drose que le livre est sorti. Et c'est seulement en 80 que soudainement on a redécouvert en fait ce texte de L'Usage du Monde, puisque en fait le temps était propice à ce moment-là. Et il est venu en effet à Saint-Malo et tout le monde a découvert un immense écrivain voyageur. Et d'où le terme d'ailleurs écrivain voyageur est arrivé avec Bouvier.
L'Usage du Monde, c'est un petit peu comment dire, la Bible, le vademécum de tout écrivain voyageur, presque. C'est devenu.
Bah, disons que c'est le livre qu'il faut avoir lu avant tous les autres pour comprendre en fait ce qu'est la littérature de voyage. Et je précise que dans littérature de voyage, il y a littérature. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un récit de voyage, il s'agit d'une reconstruction à partir d'un voyage. Et donc Bouvier a été le premier à en fait utiliser le voyage comme nourriture.
Une source d'inspiration.
Source d'inspiration et pour créer des mots, des phrases et une pensée autour du voyage.
Alors en fait, si on parle de Bouvier, c'est parce qu'il y a une actualité et on sort donc un inédit chez un éditeur qui a publié déjà pas mal de
C'est de son titres, éditeur historique.
Son éditeur historique, oui. Donc c'est Zoé, avec en fait un de ses premiers livres.
Alors c'est toute une histoire ce livre-là, parce qu'en fait, moi-même ne savais pas que ces textes existaient, parce qu'en fait, depuis la mort de Bouvier, on est en train de découvrir des petits textes
inédits, oui.
Qui étaient cachés dans ses tiroirs, parce qu'il était tellement perfectionniste que lorsqu'il n'avait pas trouvé un mot ou une phrase adéquate, il refusait de sortir le texte. Et donc sa femme, Eliane Bouvier, est en train en ce moment de faire, entre guillemets, le ménage littéraire dans les textes de Bouvier. Et grâce à ça, on peut redécouvrir des choses. Alors ce livre a toute une histoire, parce qu'en fait, il a été réédité tel qu'il était sorti pratiquement à cette époque-là. En fait, le livre est sorti 3 ans avant le grand voyage. On peut appeler ça le grand voyage, hein, parce qu'il est du sage du monde. Et tout simplement, Nicolas Bouvier et son partenaire de voyage, Thierry Vernet, qui était peintre, avaient besoin d'argent. Et pour financer ce voyage, tout simplement. Et donc, ils décident, pour la première fois, d'associer dans un petit, dans un très, très beau, joli livre, des œuvres de Vernet, une douzaine, des petites peintures qu'on retrouvera plus tard dans l'usage du monde, et 3 textes de Bouvier. Donc, ça veut dire ces 3 premiers textes vraiment mis dans un livre.
Mmh. Publié.
Publié. Et alors, on a dedans une poésie et un conte et une petite histoire. Et très curieusement, le conte est un conte indien. Enfin, il pourrait se passer en Inde. Donc, c'est très amusant de lire les 3 et de découvrir déjà, donc en 1951, toute la puissance créatrice et littéraire de Nicolas Bouvier.
Au fond, il a été à lui-même son propre mécène, puisque c'est grâce à ce livre qu'il a pu financer son voyage.
Oui, parce qu'en fait, s'ils avaient dû attendre tous les deux, je crois qu'il n'y aurait pas eu de voyage. Et en fin de compte, il n'y aurait pas eu tout ce qu'on a découvert après.
Alors, on parle beaucoup, évidemment, et c'est normal, de Nicolas Bouvier. Il faut parler un petit peu quand même de son comparse, de son complice, qui était Thierry Vernet.
Alors, Thierry Vernet, en fait, était un dessinateur. Commençait à peindre. Et en fait, il a fait toute une carrière de peintre après. Mais curieusement, lorsqu'on lit les correspondances de Bouvier et de Vernet, parce qu'ils se sont écrits même après le retour du voyage pendant des années, on se rend compte que lui-même avait quand même un talent littéraire et qu'il écrivait plutôt bien. Et c'est vrai que le rapport entre les deux a toujours été ambigu. Ils s'aimaient vraiment, hein. C'était un grand amour, une forte amitié, c'est ce qui paraît dans les textes en tout cas. Et c'est vrai que chacun essayait, dans son domaine, d'être le meilleur.
Et donc il y avait un effet de stimulation mutuelle.
Complètement.
Et donc c'est avec Thierry Vernet qu'il est parti faire ce fameux grand voyage.
Oui, et puis souvent, quand Bouvier, hélas, parce qu'il a une particularité, Bouvier, c'est qu'il était souvent malade, Thierry Vernet était toujours là pour le tirer des mauvais pas.
Alors, il y a une autre actualité en dehors de ce petit livre, donc, qui était le premier qui a été publié. C'est un ouvrage dans une collection qui est maintenant assez bien connue, qui s'appelle Voyager avec, et qui donc est une sorte de somme de l'ensemble, un choix de textes, d'anthologie, de textes de Bouvier, et qui raconte par grand pan thématique l'ensemble de son œuvre, avec un titre absolument merveilleux quand même, « S'arracher, s'attacher ».
Oui, qui est en fait le principe d'un voyage, en fait. C'est-à-dire qu'on part dans un endroit, on s'attache au lieu, aux gens, et puis à un moment donné, il faut bien rentrer. Donc, il y a un arrachement sentimental, physique, et il faut revenir. Et il faut revenir dans le cas de Bouvier pour écrire. Et parce que Bouvier prenait le temps d'écrire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait entre 7 et 10 ans d'écart entre le voyage et la réalité de l'écriture. Ce qui prouve qu'on n'est pas du tout dans le domaine du blog comme maintenant, on est vraiment dans la réflexion, dans la pensée littéraire et comment on peut traduire à travers l'écriture des sensations, des sentiments, des paysages, des odeurs. Et ça, Bouvier a été le premier à faire comprendre que c'était un talent et un métier de le faire.
Ce qui est frappant quand on le lit, c'est le fait que c'est une manière de voir les choses et de rencontrer les gens. C'est une sorte de prisme à travers lequel on a un accès à ces paysages, à cet univers, à ces personnes. Et c'est l'écriture qui révèle ça.
C'est-à-dire qu'en fait, Bouvier, d'une certaine façon, était un philosophe. Et il a même pratiquement créé une chaire de philosophie du voyage à travers cette façon d'appréhender le monde. Et il l'appréhendait de façon très originale et surtout toujours très intelligemment. C'est-à-dire que lire Bouvier, c'est un vrai plaisir de lecture. C'est-à-dire on n'est pas dans un manuel, on n'est pas dans un... C'est pas je me lève le matin, je me couche le soir, comme hélas beaucoup de récits de voyage sont actuellement. Non, non, ce sont des belles phrases, on cherche les mots. Et on comprend très vite, lorsqu'il décrit par exemple un désert en Iran, on y est. On entend le vent, on entend les odeurs, on entend plein de choses. Et c'est ça son talent en fait.
Alors sa caractéristique, c'est qu'il est parti de l'ouest vers l'est.
Oui, alors en effet, alors, le livre justement paru chez Louis Vuitton montre comment en fait... Il a commencé très très jeune à se balader en Norvège, en Islande, en Europe. Et puis, avec l'usage du monde, il est parti donc de Genève avec Thierry Vernet jusqu'à la passe de Khyber et l'Afghanistan. Là, Thierry Vernet l'a laissé tout seul. Bouvier a continué et a descendu... j'ai oublié de préciser quand même que ce voyage s'est fait dans une petite voiture qui était
très importante,
qui était une Tipolino. Alors la Tipolino, il faut imaginer l'ancêtre de la Fiat 500 en décapotable. Et cette voiture est allée jusqu'au Sri Lanka, à Ceylan. Donc à terre de la passe de Khyber, il a continué tout seul avec sa petite voiture jusqu'à traverser toute l'Inde. D'ailleurs en Inde, il est arrivé chez le concessionnaire Fiat qui lui a remis un diplôme parce que quand ils ont vu la voiture arriver, ils ont dit « c'est pas possible, vous ne venez quand même pas de Genève avec ». Donc ils étaient très étonnés. Et là, en Inde, curieusement, l'Inde l'a tellement d'une certaine façon bouleversé qu'il n'a pratiquement rien écrit sur l'Inde, alors qu'il est un écrivain admirable. Mmh. Et il est arrivé au Sri Lanka. Là, il s'est installé dans une petite ville qui s'appelle Galle, dans le sud du Sri Lanka. Et là, il va écrire son deuxième livre, Le poisson scorpion, qui est un livre hallucinatoire. Il a failli d'ailleurs mourir, il était très malade. Et là, Thierry Vernet, bien sûr, est venu le chercher, l'a ramené à Genève, où il a été soigné. Et Bouvier savait que ce n'était pas terminé, ce voyage, que l'usage du monde, il fallait qu'il aille plus loin. Et donc, il est allé jusqu'au Japon. Et là, arrivé au Japon, il est devenu complètement amoureux de ce pays. Il a écrit ce troisième livre. Donc en fait, le voyage, l'usage du monde, c'est trois livres. L'usage du monde, le poisson scorpion et les chroniques japonaises.
Alors pour évoquer ce périple de ouest en est, bien je vous propose d'écouter une musique qui nous vient de Transylvanie.
Thank you.
Voilà, il s'agit d'un ensemble vocal féminin qui nous vient de Roumanie, en l'occurrence de Transylvanie, la patrie du célèbre vampire Dracula. Voilà. Donc, pays que Bouvier a beaucoup parcouru, a beaucoup décrit. Enfin, on pourrait dire dans l'ensemble les Balkans en général.
Ah oui, il était très, très, très attaché aux Balkans. D'ailleurs, durant ce voyage, ils sont restés un certain temps dans ces Balkans. Ils décrivent notamment des scènes de liesse autour de repas mémorables avec les locaux. Et il décrit ça comme un portrait de Bosch, un peu.
D'accord, une sorte d'événement bachique.
Oui, oui, oui.
Alors, avec Bouvier, on a l'expérience d'un auteur qui apparaît tout à coup, dont au début, la dimension du voyage a dissimulé un petit peu son côté écrivain. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de temps entre le moment du voyage et le moment de l'écriture. Prenait-il des notes, prenait-il des photographies?
Alors, il prenait des notes, bien sûr, comme tout le monde, mais voilà, il n'en restait pas là. Et surtout, c'était un photographe, oui, parce que d'ailleurs, quand il est parti de Genève, il a emmené deux choses très importantes. Un appareil photo, sans doute un Leica, et c'était un Leica, et un Agra, puisqu'il enregistrait aussi les musiques et les sons qu'il trouvait sur le chemin. Et non seulement ça a été un très grand photographe, parce que justement les éditions du musée de Lausanne, le musée photographique de Lausanne, a l'ensemble de la collection des photos de Bouvier, et donc c'est paru ça en édition. Et il met tellement la photo qu'il en a fait son métier, c'est-à-dire que parallèlement à son métier entre guillemets d'écrivain, il était iconographe et il travaillait pour un certain nombre de maisons d'édition de tous bords pour collectionner et chercher les photos qu'on lui commandait.
Alors dans le livre de chez Louis Vuitton, là, S'arracher, s'attacher, il y a beaucoup de photographies, enfin beaucoup, disons, un certain nombre de photographies prises par lui-même.
Ah, il y en a très belles même. Il y a des ponts, notamment en Iran, il y a des paysages en Afghanistan. Il avait vraiment un vrai talent de photographe. Et c'est vrai que je me rappelle, un certain nombre d'années, nous avions avec à l'époque Roland Laboy, qui travaillait à la photographie à Montpellier, essayé d'avoir un projet justement. Je lui demandais de faire venir une exposition autour de Bouvier. Et là, ça ne s'est jamais fait à Montpellier.
Alors, il y a un ouvrage dont j'aimerais que l'on évoque, c'est « Le dehors et le dedans ». Cette façon qu'il a d'opposer les deux faces d'une même réalité.
Oui, parce qu'il il associait à une photo ou à un objet photographique, alors pas forcément une photo, un dessin aussi, un texte. Et toujours, il reliait le mot et l'aspect pictural des choses. Et il a fait vraiment de très belles expériences au point de vue littéraire, justement, en essayant de relier un certain nombre d'arts différents. Et il était très polyvalent.
Alors, il y a une notion qu'aujourd'hui, beaucoup d'écrivains voyageurs, ou d'écrivains tout court d'ailleurs, peuvent reprendre à leur compte, et qu'il a magnifiquement incarné, c'est la lenteur.
Ah oui, alors Bouvier, c'est l'éloge de la lenteur. C'est toujours, dans ses textes, c'est prenez le temps de découvrir, prenez le temps de penser, prenez le temps d'écrire, prenez le temps. C'est jamais dans la précipitation. Je pense que Bouvier serait un être malheureux dans ce monde actuel où tout est vitesse, précipitation, choses irréfléchies. Non, non. D'ailleurs, il a fait beaucoup, il y a eu énormément d'émulation dans tous ces écrivains qui sont venus après. Et ils ont tous compris, en tout cas ceux qui nous ont donné des bons textes, qu'il fallait prendre le temps de.
On peut même dire que c'est un voyageur qui s'installe, c'est pas quelqu'un qui parcourt. Il fait des kilomètres, bien sûr, mais à certains moments, il se pose. Il s'installe là où il est.
Oui, il se pose même très longtemps, puisque au Sri Lanka, il nous fait un texte sur le Sri Lanka, mais il parle de ce pays qu'à travers un lieu, sa chambre, sa pension où il était et la petite ville de Galée. Lorsqu'il est dans ce grand périple jusqu'en Afghanistan, ils ont fait une pause quand même de 6 ou 7 mois en Iran, à Tabriz, tout simplement parce qu'il y avait de la neige et qu'il ne pouvait plus rouler. Et là, il va décrire l'Iran à travers ce lieu. Donc en fait, ils avaient toujours tendance à parler d'un pays ou d'une région, mais en fait, à travers un lieu où lui était immobile.
Alors, il a publié en 63... vers l'usage du monde, oui. Si je ne m'abuse. Eh bien, c'est une. On a une archive de cette époque-là, et on va donc entendre la voix de Nicolas Bouvier, interviewé par un journaliste de la télévision suisse.
Nicolas Bouvier a obtenu il y a quelque temps le prix des écrivains genevois pour un livre intitulé L'usage du monde, et qui est le récit d'un très long voyage qu'il a mené de Suisse jusqu'au Japon. Un voyage qui a duré combien de temps, Nicolas Bouvier?
4 ans, tout est pour toutes.
C'est un long voyage, et un périlleux voyage.
Périlleux, non, c'est beaucoup dire. Mais 4 ans, dont 2 qui font l'objet de ce récit. Nous sommes partis avec de quoi vivre 3 mois et nous nous sommes mis à travailler dès la Yougoslavie. Puis nous avons poursuivi en prenant des emplois saisonniers, enfin les métiers qu'on trouvait.
Nous sommes partis, vous étiez 2 donc.
Je suis parti avec un ami peintre, Thierry Vernet, que je connaissais de longue date, qui avait déjà fait plusieurs plus petits voyages avec moi. Et j'étais très, très heureux de cette compagnie, parce que ce genre d'expérience est plus facile à 2.
Voilà, on a donc entendu un écho de la voix de Nicolas Bouvier et suivait une danse ancienne du Fergana enregistrée à Tashkent en 1998 avec un duo entre un sato et un dutor. le Sato étant une, on pourrait dire, une sorte de contrebasse et le Dutor, une sorte de petit bouzouki, pour rapprocher d'instruments connus. Voilà, donc je rappelle que notre invité, avec lui, on parlait de Nicolas Bouvier pour deux nouveautés, dont Tous les coqs du matin chanté, Nicolas Bouvier, Thierry Vernet, aux éditions Zoé, et puis Nicolas Bouvier, S'arracher, s'attacher, dans la collection Voyager avec, collection créée par un très grand éditeur, Maurice Nadeau, disparu l'année dernière, à l'âge de 101 ans,
oui.
Qui était en même temps le créateur de la quinzaine littéraire. C'est l'occasion de faire un petit coup de chapeau à quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup compté pour les lettres françaises en général. Puisqu'on parle d'édition, ben, la transition est toute évidente. On va parler de librairie. Alors, on le disait en introduction, le Sénat a donc confirmé et aggravé le vote de l'Assemblée nationale et donc interdit le cadeau que faisaient certains diffuseurs par Internet, le cadeau qu'ils faisaient aux lecteurs avec les frais de port. Donc les frais de port sont interdits. Alors vous allez nous expliquer un petit peu, Alain, le détail de ces mesures. On interdit les frais de port, mais on autorise la remise. Enfin, tout ça paraît encore un peu compliqué pour le lecteur moyen.
Alors, en fait, dans les faits, ce qui va se passer, c'est qu'à partir d'ici deux mois, lorsque la loi sera passée au journal officiel, il ne sera plus possible de faire les moins 5% que faisaient les sites Internet en général. Donc le prix de référence maintenant pour l'ensemble des librairies, y compris sur Internet, c'est le prix éditeur. Mmh. Et à partir de là, pour ceux qui faisaient jusqu'à présent l'envoi de livres, quel que soit le prix du livre, en frais de port gratuit, cela sera interdit. Il n'y aura plus de frais de port gratuits. Les frais de port seront payants. Par contre, on laisse au site Internet le droit de faire 5%, comme le font les libraires d'ailleurs, physiquement, sur ce prix éditeur, à déduire des frais de port. Donc, dans la réalité, ce qui va se passer, c'est quand vous achetez un livre de, disons, 20 euros sur un site Internet, il vous coûtera plus cher, un petit peu plus cher que si vous l'achetez en librairie, physiquement.
Donc, la situation s'inverse complètement.
Voilà, c'est ça. Et ça permet de faire comprendre aux gens que d'abord, les frais de port gratuits, c'était pas gratuit. C'est-à-dire que notamment, le principal fournisseur de ces pratiques, c'était Amazon.
Pour ne pas le citer.
Pour ne pas le citer. Et Amazon perdait, avec ses frais de port gratuits, 2 milliards d'euros par an. Tout simplement en se disant que...
À terme, ils les récupèrent.
À terme, si au lieu d'avoir 3000 librairies indépendantes, il y en a plus de 400, on réglera le problème et on récupérera notre argent.
Donc voilà. En fait, la stratégie d'Amazon, c'était donc une stratégie monopolistique classique, capitaliste classique. Mmh. C'est-à-dire, on casse le marché, donc on fait cadeau des frais de port, ça fait disparaître un certain nombre de librairies de terrain, et quand on aura le monopole, eh bien on reviendra à la situation antérieure et on récupérera l'argent à terme, à long terme.
Bien sûr, puisque parallèlement à ça, un certain nombre de grandes librairies en France ont bien sûr un site internet de vente. Eux, la loi s'applique également, sauf que dans la mesure où ces librairies ont des espaces physiques en ville, les gens qui achètent sur ces sites-là pourront mettre à disposition le livre qu'ils ont commandé à prendre dans la librairie. Et dans ce cas-là, bien sûr, on revient à la formule qui prévaut. Ils auront 5% en tant que client fidèle dans cette librairie. Donc,
avec une carte de fidélité, par exemple.
Avec une carte de fidélité, comme tout le monde le fait.
D'accord.
Donc il y aura vraiment tout intérêt à revenir dans les librairies. D'abord, non pas parce que forcément ce sera moins cher, ce qui est le cas, mais parce que tout simplement, il y a des professionnels, il y a de l'accueil, il y a des compétences que absolument Amazon n'avait pas. Et d'ailleurs, un certain nombre de reportages dernièrement ont montré en même temps la politique sociale d'Amazon, qui est quand même une catastrophe
et que
beaucoup d'organismes ont dénoncé. Et donc, on espère que cette nouvelle loi, qui est juste un amendement à la loi Lang, va d'abord mettre tout le monde à niveau. C'est ce qu'on voulait, c'est tout. On ne veut pas plus. Hein. Et puis, on espère aussi que les gens prendront conscience qu'être en ville, avoir des librairies près de chez soi, c'est quand même quelque chose de très important, parce que s'il n'y a plus de librairies en ville, il n'y aura plus de diffusion de la pensée, il y aura beaucoup de choses catastrophiques qui arriveront.
Alors on dit, en termes de chiffres, on dit qu'Amazon s'était octroyé à peu près 17% du marché,
du livre,
sur le plan global. Bon, 80% du trafic sur Internet, oui. Ça d'accord. Donc 17%. Et donc, est-ce que c'est ça qui, à terme, mettait en danger les librairies indépendantes ?
Oui, d'une certaine façon, oui. Parce que de toute façon, lorsqu'un libraire doit envoyer des livres à un client, ce qui lui arrive, il est obligé de faire payer les frais de port.
Alors, c'est la question que je voulais vous poser. C'est-à-dire que, bon, certes, les libraires de proximité risquent de disparaître. Donc, dans une ville comme Montpellier ou une grande ville, c'est ennuyeux de ne pas avoir son nom. Mais imaginons un monsieur ou une dame perdu sur le Larzac qui a besoin d'un livre. Est-ce qu'il peut avoir le même service par correspondance auprès d'un libraire ?
Bien sûr, il n'y a aucun problème. Nous-mêmes, nous envoyons nous avons deux, trois clients qui habitent au fin fond des Cévennes et ils nous commandent leurs livres normalement, on leur envoie par courrier. Et bien sûr, ils sont tout prêts à payer les frais de port, ce qui ne pose aucun problème éthique à ce niveau-là. Et en fait, Amazon avait fait croire que justement, les frais de port que faisaient payer les libraires étaient une espèce d'escroquerie. Hein. Oui. Alors que non. D'abord, Amazon, forcément, avec son débit, avait négocié des prix extrêmement bas avec la Poste. Or, nous, quand on envoie un livre, on en a pour 4 ou 5 euros. Or, les 4 ou 5 euros, si on devait ne pas les faire payer, ça veut dire qu'on vendrait à perte. Donc, c'est inimaginable.
Alors, précisément, expliquons ça aussi. Quelle est la marge parce que sur le prix d'un livre, parce que beaucoup de gens disent souvent « le livre est trop cher », ce qui n'est pas faux, entre parenthèses. Mais bon, sur le prix d'un livre, combien va à l'éditeur, combien va à l'auteur ? Combien va au diffuseur aussi, j'allais l'oublier, et combien va au libraire ?
Alors, on va prendre un exemple simple. Imaginons un livre à 100 euros. Bon, sur 100 euros...
C'est un beau livre, là. Hein ?
Un beau livre. Bon, sur 100 euros, reste au libraire entre 35 et 38%.
Donc, 35 ou 38 euros ?
38 euros. Le reste est partagé entre auteur, diffuseur, éditeur.
Éditeur.
Voilà. Mais nous, sur ces 38 euros, nous avons à payer des loyers,
oui.
Des taxes, des impôts, des salaires. En réalité, que ce soit une très grosse librairie, prenons Soramps à Montpellier, ou nous, petite librairie, à la fin du tableau, une fois qu'on a payé tout ça, il reste à peine 1% de marge nette. C'est-à-dire qu'on est, en fait, la librairie et le commerce le moins... générateur de marge.
De bénéfices.
Oui. Voilà. Donc avec ça, on arrive de moins en moins à vivre, en fait. C'est-à-dire les salaires des libraires sont de plus en plus bas et tout le reste augmente, c'est-à-dire les loyers. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais avoir une librairie en centre-ville, c'est un plus pour les gens. Mais pour nous, ça coûte très très cher. Amazon, il met ses entrepôts au fin fond de la campagne.
Oui, il n'a pas des charges de vitrine, on pourrait dire.
Et donc, c'est très difficile financièrement de tenir. Voilà.
Alors, dernier point que sur lequel j'aimerais qu'on insiste, c'est le service. Parce que moi, bon, il m'arrive assez souvent d'aller en librairie. Je regarde les lecteurs, comment ils se comportent, les clients. Et souvent, ils ont pas trop... Ils ont quelquefois un titre ou un auteur, quelquefois même pas, un pays, un thème... j'ai entendu tel ou le prix, etc. Et donc, le prix, je veux dire le prix honorifique. Et il y a un dialogue qui s'instaure avec le libraire et assez souvent, le client repart avec le livre, ou un livre en tout cas, tel qu'il correspond à ses souhaits.
Oui.
Là, il y a un véritable service que ne rend pas une...
Ah ben, de toute façon, Amazon n'a pas de libraire. Il a des magasiniers. Et donc, notre discours à nous, c'était de dire que si vous continuez à acheter continuellement sur ce genre de site, au bout d'un moment, vos enfants, ce n'est pas la peine qu'ils fassent des études, parce que le seul travail qu'on leur proposera, c'est un travail de magasinier. mais pas de libraire. Donc, c'était aussi une dévalorisation du métier. En effet, c'est un métier d'être libraire. Alors, bien sûr, on peut toujours nous dire que de temps en temps, on tombe sur quelqu'un qui n'est pas toujours compétent. Bon, il faut du temps pour être un bon libraire. Moi, ça fait cette année 40 ans que je le suis. Alors forcément, 40 ans, j'ai, disons...
Une certaine expérience.
Une expérience, alors, et à la fois du métier, mais aussi de culture. Lorsqu'on prend des jeunes libraires qui ont à peine 22 ans, il faut le temps qu'ils se fassent, qu'ils apprennent des choses. Bon, après, c'est un problème d'intérêt personnel. Et donc, mais en général, curieusement, le rapport à la librairie n'est jamais le même qu'avec les autres commerces. Je me rappelle très bien, quand on a ouvert notre librairie, la première chose que les gens nous demandaient, c'est pas un livre. Ils nous demandaient d'où on venait et qu'est-ce qu'on avait fait avant. Vous ne demandez pas ça à votre boucher ou à votre boulanger. Et tout de suite, les rapports, on est un peu confidents. Hein. Et donc, on connaît bien les gens, on connaît leurs goûts et les gens viennent se confier. Donc, on a un rapport un peu très particulier. On est un commerce vraiment à part et entièrement à part.
Dernier point concernant, donc, il y a 3000 librairies indépendantes en France, on dit en gros.
Bon. Je pense en fait, il y en a 2000. Mais on met dedans souvent les maisons de presse et choses comme ça.
Le ministère de la Culture vient de créer un fonds d'aide à la trésorerie de 5 millions d'euros.
Oui.
Bon, est-ce que c'est une mesure qui vous paraît utile et nécessaire ?
Alors, moi, personnellement, je trouve que c'est une mesure qui peut être utile, sauf que j'ai peur qu'elle soit surtout utile aux grosses librairies et pas aux petites. Parce que c'est quand même tout un... Il faut remplir un dossier, il faut demander l'aide. Et puis, de toute façon, le problème, c'est que globalement, les problèmes de trésorerie des libraires, ce n'est pas une fois par an. C'est souvent 6, 7, 8 mois, même 10 mois par an. On ne va pas demander des prêts sans arrêt qu'il faudra rembourser de toute façon. Oui. Il ne s'agit pas de subventions. Et puis, imaginons le scénario extrême. Une grosse librairie donc, qui fait 15, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et il y en a plus d'une cinquantaine en France. Elle a besoin d'un problème de trésorerie. Elle va demander 100 000 euros. Elle ne va pas demander 1 000 euros. S'ils sont 50 à demander en même temps cette somme, il ne reste plus rien pour les autres. Voilà. Donc, c'est bien.
Il faudra voir
ce que ça devient.
D'accord. Eh bien, merci Alain Londner de nous avoir éclairé sur cette difficile question de la librairie, question qui n'est pas encore réglée, je pense, parce qu'on a le souci qu'il n'arrive pas aux libraires ce qui est arrivé aux disquaires.
Et puis, on a un autre souci, c'est qu'en fait, le problème, puisqu'on parle principalement d'Amazon, n'est pas réglé. C'est-à-dire que ça, l'achat, on l'a réglé. Mais il faut quand même savoir qu'Amazon ne paye toujours pas d'impôts en France, comme nous, ne paye pas de TVA, comme nous. Et ça, il faudra peut-être le régler un jour, mais ça, c'est une volonté politique.
Merci Alain. On va changer de rubrique et passer à notre grand angle.
Grand angle.
Alors, au cours des premières émissions, on a présenté plusieurs revues et aujourd'hui, on en a une en main à laquelle vous êtes particulièrement attaché. Il s'agit de la revue Long Cours qui en est à son 6e numéro, si je ne m'abuse, oui, c'est ça. Long Cours, alors, c'est une, à la fois une revue, on pourrait dire, de reportage, un petit peu, une revue littéraire aussi. Et une revue aussi de photographie, de croquis. C'est au fond une façon de pratiquer le long cours sous toutes ses formes.
Oui, mais surtout, c'est enfin une revue qui est la plus proche possible de ce qu'on appelle la littérature de voyage. C'est à la fois des reportages, mais ce sont des reportages souvent demandés. Donc ce sont des reportages originaux. Mmh. Et on les demande souvent à des grands écrivains voyageurs. D'ailleurs, à chaque fois qu'un numéro paraît, on se rend compte que la moitié de ces auteurs, nous les avons reçus à Montpellier. Et donc, c'est vraiment des gens qu'on connaît.
Eh bien, un auteur que vous avez reçu, c'était Sylvain Tesson, et il parle de la revue Long Cours.
Il me semble que c'était tout à fait urgent paradoxalement d'ailleurs, de réanimer l'idée de la lenteur qui est contenue dans le titre « Long cours ». Ce qui se passe au long cours, ce qui se tient dans une longue durée, me semble plus intéressante que l'urgence. Et dire ça, cela revient à dire qu'une revue qui s'appelle « Long cours » est plus importante qu'un journal qui s'appelle « 20 minutes », par exemple, vous voyez. C'est-à-dire que moi, je me porte davantage vers un journal qui s'appelle « Long cours » qu'un journal qui s'appelle « 20 minutes » ou « 30 secondes » ou « 10 secondes ». Je suis tout de même plus intéressé par quelque chose qui annonce dès l'abord, c'est-à-dire dès son titre, dès l'affirmation de sa une et de son titre, qui tout d'un coup s'inscrit dans la longue durée dont Fernand Braudel, notre maître à tous, ce géographe magnifique et cet historien qui tout à coup a expliqué dans les années 30, 40, 50 que l'histoire et la vie, au fond, ne pouvaient se comprendre que dans sa longue durée, plutôt que d'imaginer que l'espèce de précipitation immédiate, l'immédiateté, la soif, l'appétit de l'instant, de la nouveauté. Je ne suis pas sûr que l'appétit de la nouveauté soit un bon prisme pour comprendre le monde. Je crois plutôt que lorsque l'on s'attache à essayer de comprendre les hommes, la géographie, le paysage, il vaut mieux se porter vers un regard privilégie la longue durée plutôt que la précipitation. Car au fond, j'ai toujours été, si vous voulez, si on transpose cela en des termes d'affection zoologique, moi je suis plutôt du côté de l'iguane qui vit lentement que du hamster qui court dans sa petite roue en plastique. C'est vrai, voilà. Je crois que Long cours a plus d'abonnés chez les iguanes que chez les hamsters. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais dire. La longue durée, la lenteur. Et d'ailleurs, vous tous qui probablement voyagez ou aimez le voyage, ou avez des envies de voyage, vous savez tous, confusément, ou bien expérimentalement peut-être, que lorsque l'on voyage lentement, doucement, avec effort, difficilement, vous savez tous que lorsque l'on décide d'arpenter le monde musculairement, c'est-à-dire à pied, à bicyclette, en ramant, en allant lentement, on retire beaucoup plus de choses que lorsque l'on se précipite. De la même manière, le thé, cette boisson qui oblige l'infusion, est une boisson qui révèle davantage ses sucs que lorsque l'on ouvre une canette de soda qui vous donnera peut-être une satisfaction immédiate, manifesté par le pchit. Vous savez, quand vous ouvrez la canette et que vous entendez ce petit geyser pchit dû à la pression contenue dans la canette et qui vous donne l'illusion d'un flash, d'une satisfaction sucrée, immédiate, et qui au fond est beaucoup moins profonde que le thé, cette boisson mélancolique et longue. Je crois que voilà, que Long cours, cette revue, appartient à la patrie des iguanes et du thé davantage qu'à celle des hamsters buveurs de Coca-Cola.
Non, je suis ravi d'avoir été comparé à un iguane cavalant sur une boule à disco. Mais c'est ça en fait qu'on essaye de mettre en avant, c'est ce genre de propos qui effectivement nous rappelle l'importance de la lenteur, l'importance de prendre le temps de réfléchir. Et le principal problème de la société actuelle, quel que soit le pays où on soit, c'est quand même effectivement la course d'abord à l'argent et la course tout court, c'est qu'on ne prend plus le temps de vivre. Et ce que j'aime avec des gens comme Sylvain et la majorité de nos auteurs, en fait, ce sont des gens qui prennent le temps tout simplement. Le temps de contempler le monde. Effectivement, comme le disait Sylvain, c'est très vrai, c'est que le monde est extrêmement complexe, mais tant mieux. Pourquoi s'évertuer à simplifier ce qui fait la richesse de l'humanité? C'est que le jour où tous les hommes seront les mêmes, où nous serons tous des robots, ça servira. Là, pour le coup, on préférera être vraiment un iguane qui survit sur son îlot rocheux sous un cactus. On sera beaucoup mieux dans cet état-là que dans une société telle qu'on nous la prépare actuellement.
Voilà, donc avec Sylvain Tesson, c'était Christian Savin, le rédacteur en chef de la revue Loncourt. Alors, quelques mots sur le sommaire de cette revue, donc, qui aborde avec cette idée de lenteur et de voyage, même des destinations très proches, puisque dans le sommaire, j'ai vu qu'il y avait un beau titre, Indigène à Montmartre, dans l'article de Marie-Hélène Freissé, qui sévit sur France Culture, si je ne m'abuse. Donc il y a à la fois des reportages de longue durée en Algérie, la Silicon Valley, un très, très bel article d'Olivier Weber sur les gourous de la Silicon Valley, le récit d'une jeune femme au YAC, une jeune femme qui veut redonner au YAC sa fonction initiale avec la laine qui en est tirée, qui a un élevage et qui relance cette activité dans une zone himalayenne où ce n'est pas du tout évident.
Au Ladakh.
Et donc également un très gros dossier, très intéressant dossier sur le chamanisme, sur lequel peut-être une de ces prochaines émissions on reviendra parce que c'est un thème extrêmement intéressant. Une nouvelle inédite de Paul Bowles, un écrivain important qui a beaucoup écrit sur le Maroc où il était installé, écrivain anglais. Un très beau sommaire, une très belle revue. Alors évidemment, on ne peut pas la montrer, mais vous pouvez me faire confiance. C'est une très belle revue avec des récits graphiques, donc des dessins, des photographies. Voilà, donc c'est Loncourt. Le numéro 6 vient de paraître. Et comme moi, Alain, vous ne saurez trop en conseiller la lecture imminente.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, Sylvain Tesson, qu'on a entendu tout à l'heure, a écrit déjà 3 articles dans les 3 premiers numéros, des inédits, justement, de petits voyages qui ne nécessitait pas un récit. Et puis juste dire une chose, c'est quand même, voilà, Sylvain Tesson, c'est vraiment l'écrivain actuellement que je considère comme l'héritier de Nicolas Bouvier. C'est-à-dire, il parle et il écrit de la même façon, et il a une approche aussi du voyage, comme Nicolas Bouvier l'avait à son époque.
Alors, Sylvain Tesson, que vous allez peut-être recevoir prochainement.
Peut-être, oui.
C'est en cours.
Peut-être au mois de février, parce qu'il a un énorme planning. Il faut quand même savoir qu'il a été l'une des premières personnes que nous avons reçues à la création de la librairie, lorsqu'il était tout jeune, inconnu.
C'est un vieil ami, donc.
En 1997, en janvier 1997, il venait de son premier tour du monde. Il n'était encore qu'un aventurier, et maintenant il est un écrivain. Et on l'a reçu 8 fois déjà, durant toutes ces années. C'est quelqu'un de très très fidèle à notre librairie, et nous sommes très très fidèles à son œuvre.
Alors gageons qu'on aura peut-être l'occasion de le recevoir ici, s'il vient à Montpellier. Vous vouliez nous parler de 2 ouvrages en particulier.
Oui, alors une de nos spécialités, notre attachement, c'est à la littérature indienne, en plus de la littérature de voyage, parce que nous faisons aussi les littératures, et principalement la littérature d'Asie. Et il y a deux nouvelles choses qui sont parues en littérature indienne, et notamment un nouveau carnet de voyage de nos amis Olga et Arnaud de Turckheim, que nous avons reçu déjà 2 fois à Montpellier.
Ils sont venus à la Comédie du Livre plusieurs fois.
La Comédie du Livre, et qui, Olga écrit, Arnaud dessine, et cette fois, alors toujours sur l'Inde, hein, c'est des passionnés de l'Inde, et je pense que ils ont, sans le vouloir le dire, ils espèrent un jour mourir là-bas, et sur un carnet, bien sûr. Et là, ils nous emmènent dans une région qui est très peu connue, qui est moins connue de l'Inde, qui est le nord-est de l'Inde. Mmh. Une région, donc c'est l'Assam, le Nagaland, le Meghalaya. Ces régions où il y a des tribus, où il y a des accès aux voyageurs très difficiles. On a même besoin de permis, souvent, pour y accéder, puisqu'il y a quand même des conflits armés,
oui,
à la frontière.
Proche de quel pays, justement?
La Birmanie.
Birmanie, oui.
Et donc, notamment, il y a énormément de conflits tribaux entre la Birmanie et l'Inde. Et il y a aussi un problème que l'Inde est en train de découvrir depuis 3-4 ans, ce sont les naxalites, c'est-à-dire ces mouvements maoïstes qui sont extrêmement dangereux et qui sévissent beaucoup dans cette région-là. Et on a un très beau texte. Et j'aime beaucoup les dessins d'Arnaud qui sont très, très pastels comme ça, qui décrivent les paysages. Alors, il faut savoir que Arnaud est un monsieur qui a 85 ans et qui est toujours en train de crapahuter dans ces zones extrêmement peu confortables. Mais ça n'a aucune importance. Ce qui l'importe pour lui, c'est de vivre des émotions, découvrir des gens et de les retranscrire par son coup de crayon qui est vraiment un très beau Très, très beau coup de crayon.
Alors, j'ajoute que ça se présente comme un livre. Ce n'est pas du tout un album. C'est un vrai livre. Hein.
Oui, parce que justement, avec Actes Sud, ils se sont mis d'accord pour que justement le livre soit un récit et donc à la forme d'un ouvrage littéraire et avec les dessins à l'intérieur.
Intercalé.
Voilà.
D'accord. Et l'autre...
Alors, l'autre livre, c'est un livre d'une des écrivains indiennes que nous apprécions le plus, Anita Nair. Et jusqu'à présent, Anita Nair faisait beaucoup d'ouvrages, de romans sociologiques, notamment Compartiment pour dames ou Un homme parfait ou quand vient les cyclones, qui étaient toujours des histoires sur la femme indienne. Et là, d'un seul coup, elle nous a surpris. Elle a, entre guillemets, pété les plombs, puisqu'elle nous propose un polar, un thriller, qui se passe à Bangalore, la ville où elle habite. Mmh. Et là, on a vraiment une histoire de serial killer à l'intérieur de cette ville, qui est assez étonnant. Mais on retrouve quand même les qualités d'Anita Nair, c'est-à-dire qu'elle va... Nous allons être plongés dans le milieu des hijras, les fameuses castes d'eunuques qui vivent à Bangalore et dans d'autres villes de l'Inde, qui sont très importantes dans le fonctionnement de la société indienne. Et elle dénonce énormément la corruption politique, puisqu'on est aussi dans ces milieux-là. Et c'est vraiment un roman glauque et effroyable, mais extrêmement passionnant sur les dessous de la ville de Bangalore. Et c'est sa façon qu'elle a, avec douceur, de dénoncer les choses qui ne se passent pas très bien en Inde.
Il y a beaucoup d'écrivains indiennes maintenant, aujourd'hui.
Principalement indiennes, les écrivaines actuellement en Inde, oui.
Ce qui est paradoxal avec la situation faite à la femme en Inde.
Et oui, mais c'est peut-être une façon justement de se révolter et de dénoncer tout ce qui s'y passe. On a eu dernièrement un roman justement sur les infanticides de filles qui se passent à la campagne. Et pareil, sous la forme de polar ou de forme de roman qui ont l'air doucereux comme ça, mais qui dénoncent de façon très virulente la nouvelle société indienne qui, hélas, elle aussi est en train de devenir une société comme la nôtre. Et elle arrive à avoir les deux mauvais côtés des choses, à la fois l'ancien, avec les castes qui existaient déjà, et puis maintenant les castes sociales. Donc, heureusement que la littérature est là pour dénoncer et pour montrer ce qui se passe.
Comme quoi la littérature peut être un moyen de combat.
Complètement.
Gulliver, la revue de presse.
Je n'ai jamais débattu avec Nancy.
Parfois, l'angoisse plaque ses robes de bure entre deux mains et toi. Monsieur Alain adore ça.
Revue de presse qui tourne un peu à la revue nécrologique, je m'en excuse, mais les faits sont là. Je voudrais vous parler de notamment deux écrivains qui viennent de disparaître. Il s'agit d'une part d'un Sud-Américain que peut-être pas très très connu, mais qui est très important. Il s'agit de Juan Gelman, qui a eu le prix Cervantes en 2007. C'est le prix des lettres hispaniques le plus important. C'était donc un poète et militant argentin qui, depuis le coup d'état militaire qui a mené la junte des généraux au pouvoir, vivait en exil à Mexico. Il est mort à 83 ans il y a quelques semaines. C'est donc, il faisait partie de ces gens qui, d'origine russe, qui ont émigré en Argentine et qui sont restés jusqu'à ce qu'ils s'en exilent, bien sûr. Toute sa famille a été massacrée par le régime des colonels, famille au sens large, puisque même ses belles-filles ont été massacrées. Lui, il a milité, il a fait d'ailleurs une parenthèse très importante dans sa carrière pour agir contre le régime argentin dictatorial. Et donc c'est un vieux monsieur qui, à la fois amer sur le plan politique, mais extrêmement intéressant sur le plan littéraire, qui n'a jamais perdu confiance et qui a écrit des choses absolument magnifiques. Je voudrais d'ailleurs vous lire un tout petit passage d'un poème de cet auteur. Du possible au probable, du rêve à la réalité, il y a comme des mers, des plages nocturnes où des rapaces défont des formes que mouillent les jus de cœur. C'est comme ça. On voyage de la poitrine au soleil en se dorant à merveille ou bien exister. Voilà, c'était donc la disparition. Alors je signale d'ailleurs que l'on va publier un inédit de Juan. Alors je ne sais pas d'ailleurs, dans ma prononciation, je ne sais pas si on dit Gelman ou Gelman, parce que c'est pas un J, c'est un G. Mais comme je ne suis pas, je ne pratique pas cette langue, je ne peux pas en dire plus. Alors, apparaître en mars chez Gallimard, un recueil qui s'appelle Vers le Sud et autres poèmes de cet auteur. Autre disparition, c'est celle de Jean Métellus, si j'arrive à retrouver mes notes. Jean Métellus, c'est un auteur haïtien qui a... Eh bien, je les ai perdus, mais je vais vous raconter ça de mémoire. C'est un auteur haïtien qui a donc un de ses premiers auteurs haïtiens connus en France. C'est à la fois un médecin et un dramaturge, un poète, un romancier. Il a fait ses études en France et donc n'est jamais retourné à Haïti. Il est mort dans la région parisienne. C'est un auteur très prolixe qui s'intéressait beaucoup, comme médecin, aux histoires du cerveau et comme auteur aux phénomènes mentaux avec des climats extrêmement intéressants. Voilà, c'est un peu dommage de voir un auteur comme ça disparaître. Mais c'est le premier de cette grande génération des auteurs haïtiens. Et je termine avec le succès d'un film assez étonnant qui s'appelait Sur le chemin de l'école. C'est un documentaire qui a donc réuni 1 200 000 spectateurs à ce jour et qui donc va probablement atteindre 1,5 million. C'est l'histoire d'enfants d'un peu tous les pays qui vont à l'école et pour qui l'école est un véritable cadeau. Dans un pays comme la France, il est dommage qu'on n'ait pas tout à fait la même perception du phénomène. Voilà, ainsi s'achève cette revue de presse et notre émission. Merci Alain Lonner de nous y avoir accompagnés.
Merci beaucoup.
L'émission a été réalisée par Gilles Gouget. Je voudrais signaler, parce qu'on me l'a demandé, que les voix que l'on entend au début au générique sont dues à Blaise Andrard, à Bernard Noël, à Jean Echenoz et à Jean-Marie-Gustave Leclésio, avec leur concours totalement involontaire, bien entendu. Gulliver, une émission d'Alain Vaquier réalisée par Bruno Bertrand, que vous pouvez retrouver en podcast sur www.divergence-fm.org.